Alors, pour faire transition, et avant d'aborder le compte rendu de l'ouvrage dont on a déjà parlé ici, je voudrais vous lire, comme j'aime le faire et comme j'ai l'impression que vous aimez les entendre, deux petites choses. D'abord, des proverbes que j'ai trouvés dans un gros livre, dans une brocante. Ça s'appelle « Au bonheur des mots ». C'est de Claude Gagnaire. Je ne me lasse pas de feuilleter ce gros livre. C'est plein d'anecdotes, c'est plein d'histoires qui ont toutes quelque chose à voir avec l'histoire des mots. Ça date de 1989 et c'est chez Robert Laffont. Au chapitre Proverbe, voilà ce que l'on trouve. Proverbe espagnol. L'espagnol est la langue des amants, l'italien est celle des chanteurs, le français est celle des diplomates, l'allemand celle des chevaux. Autre proverbe espagnol. L'italien se parle aux dames, le français aux savants, l'espagnol à Dieu. Et enfin, voici un aveu de Charles Quint. J'ai appris l'italien pour parler au pape, l'espagnol pour parler à ma mère, l'anglais pour parler à ma tante, l'allemand pour parler à mes amis et le français pour me parler à moi-même.
Ouais. C'est trop.
Alors, l'autre texte qui n'est pas issu de cette espèce de dictionnaire, je ne vous dis pas de qui il est parce que je pense que vous le connaissez tous, mais vous ne l'avez pas entendu depuis longtemps. Le mot presbytère venait de tomber cette année-là dans mon oreille sensible et d'y faire des ravages. C'est certainement le presbytère le plus gai que je connaisse, avait dit quelqu'un. Loin de moi, l'idée de demander à l'un de mes parents « Qu'est-ce que c'est un presbytère ?» J'avais recueilli en moi le mot mystérieux comme brodé d'un relief rêche en son commencement, achevé en une longue et rêveuse syllabe. Enrichi d'un secret et d'un doute, je dormais avec le mot et je l'emportais sur mon mur. Presbytère. Je le jetais par-dessus le toit du poulailler et le jardin du voisin Miton, vers l'horizon toujours brumeux de Moutier. Du haut de mon mur, le mot sonnait un anathème. « Allez, vous êtes tous des presbytères !» criai-je à des bannis invisibles. Un peu plus tard, le mot perdit de son venin. Et je m'avisais que presbytère pouvait bien être le nom scientifique du petit escargot rayé jaune et noir. Une imprudence perdit tout. Pendant une de ces minutes où une enfant si grave, si chimérique qu'elle soit, ressemble passagèrement à l'idée que s'en font les grandes personnes. « Maman, regarde le joli petit presbytère que j'ai trouvé !»« Le joli petit quoi ?» Le joli petit presse. Je me tus trop tard. Il me fallut apprendre. Je me demande si cet enfant a tout son bon sens. Ce que je tenais tant à ignorer. Et appeler les choses par leur nom. Un presbytère, voyons. C'est la maison du curé. Vous avez deviné ? Voilà, c'est dans la maison de Claudine. L'histoire du presbytère. Alors. Ce coup-ci, on ne peut plus reculer. Il nous faut aller voir où sont passés les Indo-Européens. Donc, c'est une nouvelle leçon. Enfin, une leçon, non, c'est un compte rendu parce que je ne vais faire aucun commentaire personnel. Alors voilà comment je traiterai le compte rendu. D'abord, dans un grand tas, nous ferons une approche et nous verrons les contextes de sa démarche, c'est-à-dire celle de l'auteur Jean-Paul Demoule. Il n'y a pas d'accent, ça n'est pas Demoulé. Voilà. Et dans ce grand tas, nous verrons deux parties. Premièrement, son projet. Et deuxièmement, idéologie d'une légende. Idéologie au pluriel. Enfin, en troisième partie, le cas de Georges Dumézil. Je pense que nous n'aurons pas le temps de voir tout cela aujourd'hui, mais vous avez le plan de la première partie. Je ne vais pas vous résumer l'ensemble de l'essai qui est très vaste. J'ai choisi ce qui a un lien plus ou moins proche avec notre cours, évidemment. Alors, en préalable, quelques éléments sur l'auteur Jean-Paul Demoule. Il est né en 1947. Il est archéologue et historien. Et il est professeur de proto-histoire européenne à l'Université Paris 1. Voilà. Et il est toujours en fonction, puisque toi, tu l'as côtoyé récemment.
Oui. Voilà. Il était aussi directeur
De l'INRA. Bon. IMRAP.
C'est archéologie préventive.
Préventive.
De l'archéologie préventive.
Archéologie préventive.
Oui, c'est ce qui... Ça fait une vingtaine, 10 ans ou 15 ans, 20 ans que ça existe. Et ça permet, lorsqu'il y a des travaux, on regarde ce qui se passe. Ça pose des problèmes parce que c'est les gens qui vont faire les travaux qui vont payer cette recherche. Donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle autoroute, il faut regarder s'il n'y a pas des choses en dessous.
C'est ce qu'on a eu à l'autoroute locale avec une exposition qui avait lieu à Chamonix.
C'est ça, voilà, en effet. Merci Claude. Merci pour cette précision. Donc, archéologue, historien, professeur de proto-histoire européenne, et il est membre de l'Institut universitaire de France. Les savants ont de l'humour. Voici deux de ses autres titres de livres. L'avenir du passé, deux points. Modernité de l'archéologie. Ça date de 2008. Son autre titre intéressant, c'est « On a retrouvé l'histoire de France », deux points. Comment l'archéologie raconte notre passé. Il est vrai que pour notre génération qui a débuté en matière d'histoire de France avec des chromos et des clichés absolument ahurissants, on avait bien besoin de retrouver l'histoire de France. Voilà, et ce livre date de 2010. Et donc cet homme a de l'humour. Vous l'aurez remarqué avec le titre de l'ouvrage qui nous intéresse, « Mais où sont passés les Indo-Européens ?» qu'il faut entendre dans son double sens. Quelle route ont-ils emprunté pour venir envahir nos pays et nous abreuver de leur langue mère? Ou deuxième sens, mais nous ne les voyons plus, ils ont disparu. Où sont-ils cachés et ont-ils existé? Évidemment. Alors, nous abordons maintenant le projet de l'auteur. Il cherche à démontrer que la notion de peuple originel celui que nous appelons, pour faire vite, indo-européen. Donc il cherche à démontrer que cette notion est une légende dorée. Il va plus loin, je le cite, il cherche à faire, enfin il dit, pardon, que cette notion, c'est un parallèle et un rival de la Genèse biblique. En effet, et dès son introduction, il montre l'aspect binaire et presque contradictoire de ce que l'on regroupe sous le nom d'études indo-européennes. Alors, pourquoi cette notion de peuple originel ou de langue originelle serait placée sous un aspect ambivalent? J'y viens. D'abord, nous dit-il, premier aspect, l'histoire des études indo-européennes, je le cite, à la pureté simple des légendes familiales, avec ses pères fondateurs, ses enfants prodiges et ses fils dévoyés. J'aime beaucoup cette image. Voilà. Donc l'histoire des études indo-européennes à la pureté simple des légendes familiales, avec ses pères fondateurs, ses enfants prodiges et même ses fils dévoyés. Fin de citation. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc ça serait une sorte de genèse profane. Mais, deuxième aspect qui fonde la notion d'ambivalence, mais cette histoire des études indo-européennes est en même temps l'une des seules sciences humaines qui admet les sciences tout court, qui empruntent aux sciences tout court, et quand je dis sciences tout court, celle de la matière et celle de la nature. Petit à petit, ça va prendre sens, tout cela. En effet, le constat des ressemblances entre les langues dites indo-européennes, c'est une découverte en elle-même, mais surtout, c'est sur la grammaire comparée de ces langues que s'est édifiée la linguistique générale au XIXe siècle. Or, la linguistique générale est la seule, j'y reviendrai, hein, je répéterai, est la seule science humaine qui ait débouché sur des modélisations mathématiques reconnues. Donc, je reprends. Hein. Donc, le constat des ressemblances entre les langues dites indo-européennes, c'est en soi une découverte. Mais, surtout, c'est sur la grammaire comparée de ces langues que s'est édifiée la discipline dite linguistique générale, discipline qui a débouché sur des modélisations mathématiques. Mais ça n'est pas tout, le lien avec la science pure va plus loin. Dès le milieu du 19e, le grammairien dont je vous ai déjà parlé, mais c'était le 7 octobre, c'est un peu loin, Auguste J'ai toujours peur de me tromper de crayon maintenant. Auguste Scheicher. Donc, ce grammairien se référait à Darwin pour construire son arbre généalogique des langues. Et symétriquement, pendant que Scheicher faisait un lien entre la grammaire et la généalogie pure, eh bien, symétriquement, parallèlement, des biologistes prenant au pied de la lettre cet arbre venu de leur discipline, l'arbre généalogique, hein, donc des biologistes prenant au pied de la lettre cet arbre venu de leur discipline, s'efforcent, et encore aujourd'hui, hein, s'efforcent de retrouver, tenez-vous bien, au fond du génome humain, les traces des migrations indo-européennes. Voilà. Vous voyez pourquoi peut-être le livre de De Moule avait besoin d'être écrit. Et cela m'a rappelé, et je dis ça avec malgré tout beaucoup de respect que je porte à ce genre de médecine parallèle, une de mes visites chez une... j'ai oublié le nom, celle qui donne les petites... Homéopathe. Voilà. Je lui fais part de mon profil de patiente et elle me suggère un type de régime après que je lui eus donné mon groupe sanguin et elle m'a donné une explication qui était la suivante. Eh bien, on pense que selon les groupes sanguins, les Indo-Européens, et elle a fait un lien entre voilà, l'histoire des Indo-Européens et les régimes qui étaient le mieux adaptés à la biologie de chacun. J'avoue que là, j'avais été sidérée et j'ai repensé à cette histoire quand j'ai lu ce paragraphe. Voilà. Alors, c'est à ce grand écart entre le mythe d'une langue mère et la quête scientifique qui est inhérente à l'homme et qui est infiniment respectable, hein, que s'est attelé notre auteur. Hein. Il va essayer de comprendre ce grand écart, de le réduire et de trouver des explications alternatives. J'en arrive maintenant donc au deuxième point, les idéologies d'une légende. Et d'abord, un premier point que j'ai intitulé « La fin de la vision biblique ». Alors, vous allez voir, ça commence très fort. En matière de Genèse, au sens biblique du terme, et en matière de langue, les Européens étaient tenus d'emprunter leur mythe d'origine aux Juifs, l'hébreu étant la langue de Dieu et du paradis. C'était donc la mère de toutes les langues. Voilà le point de départ. Et peu à peu, ce postulat a rencontré
des obstacles plus précis. Premier obstacle, les Juifs étaient aux yeux des Européens de tradition chrétienne leurs pires ennemis de l'intérieur. Problème. Deuxième chose, plus sérieusement, si j'ose dire, la rupture intellectuelle qui eut lieu à la Renaissance avec les croyances médiévales. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, un rapport radicalement différent et nouveau au savoir s'est instauré. Rapport radicalement nouveau, non pas seulement en matière de savoir, mais aussi de territoire et d'histoire. En effet, après 1492, certains faits s'avèrent fatals au mythe biblique. On découvre des nouveaux mondes qui ne sont pas évoqués dans la Bible. Et en parallèle, au moment de la Renaissance, dans les années 1500, on redécouvre l'Antiquité gréco-latine d'avant le Christ, dont les savoirs apparaissent à l'évidence, sinon supérieurs, en tout cas aussi consistants que ceux du Moyen-Âge gothique. On ne peut pas aisément imaginer la révolution mentale, intellectuelle, philosophique, métaphysique que cela a pu représenter. Hein ? Donc, c'est pour cela que j'ai parlé de fin de la vision biblique. La Bible ne pouvait plus tout expliquer et tout être la référence de tout, excusez-moi. Peu à peu, le monde se laïcise. Et c'est le deuxième point. Faisons un gros plan sur le 18e siècle. Vous savez qu'on l'a appelé siècle des Lumières partout en Europe, puisqu'il est consacré à la mise en place d'une vision affranchie du mythe chrétien. Vous savez aussi que ça n'alla pas sans douleur ni sans l'Inquisition. Alors, regardons du côté des philosophes. Et d'abord, le cas de Leibniz. Alors, vous savez que c'est un des plus grands philosophes allemands et occidentaux. Leibniz tient pour acquis l'existence d'une langue première dont ont dérivé toutes les langues humaines. Il précise que le foyer d'origine de ces langues humaines se situerait sur les bords de la mer Noire. Ceci peut être recevable, mais ce qui est plus intéressant, et j'ajoute plus grave, c'est qu'il précise que ses recherches ne visent pas seulement le progrès du savoir, mais porte sur la mission du peuple allemand. Pourquoi ? Il suggère dans un mémoire, je le cite, que « l'origine et la source du caractère européen doivent être cherchées en grande partie chez nous ». Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que Leibniz pense que la terre germanique et la langue germanique ne sont pas loin d'être les matrices de toutes les langues humaines. Il ne va pas jusqu'à substituer le germanique à la langue de la Bible, tout simplement parce qu'il sait que ça serait une hérésie. Hein ? Mais il s'inspire d'une théorie qui a existé 6 siècles plus tôt, venue d'une disciple, d'une illuminée, je dis cela avec respect, dont vous avez déjà entendu parler, Hildegard von Bingen. Qui, donc c'est cette disciple d'Hildegard von Bingen, avait démontré, et en latin, je cite, que Adam et Ève parlaient allemand, puisque cette langue, à la différence du latin, Madame Garban, je vous interdis de rire, puisque, à la différence du latin, cette langue ne s'est pas scindée en de multiples langues, comme le latin qui est devenu l'espagnol, le français, l'italien, bof, c'est ces langues sous-développées. Voilà. Donc, vous voyez que ces thèses extrêmement, je dirais, nationalistes, hein, ont participé d'un amalgame, d'une orientation qui n'a absolument rien à voir avec la linguistique. Hein.
En revanche, ces tisanes sont toujours d'actualité.
Tout à fait. Et la musique de cette époque est toujours aussi planante. Donc nous la remercions pieusement. Du côté de Voltaire, hélas, ça n'est guère mieux. Hein. Voilà ce qu'il en est du côté du philosophe français. Le siècle des Lumières a donné naissance, de manière navrante, mais comment dirais-je, comment on appelle ça, le contraire de bénéfice secondaire qu'on emploie, vous savez, dans les guerres, un dommage collatéral. Voilà. Voilà, le siècle des Lumières a donné naissance à un racisme scientifique. Et dans la foulée, le mythe des origines va s'accompagner du rejet de l'autre, et cela jusqu'à nos jours. Hein, voilà. On essaie de partir en quête des origines et on arrive à une théorie qui est purement raciste, pour le redire simplement. Je m'explique. Dans la foulée d'un grand naturaliste des Lumières, vous en avez entendu parler aussi, Linné, celui qui s'est occupé de la classification des espèces, non seulement végétales, ce sont les plus connues, mais aussi animal, on a vu s'étendre ce classement à toutes les autres sciences. Et de Diderot jusqu'à Hume, le philosophe anglais, de Buffon à Voltaire, tous cautionnent dans cette logique de classement la supériorité de l'Europeus albus, c'est-à-dire l'Européen blanc, parce qu'il est ingénieux et inventif. Là, on est dans les pires des croyances. Donc, il est supérieur à l'Americanus Rubescens. Voilà, c'est-à-dire rougeoyant ou rose appuyé, basané et irascible. Et, rions un peu pour ne pas pleurer, cet Americanus reste quand même supérieur à l'Asiaticus Luridus, alors Luridus, c'est-à-dire jaunissant, lui il est orgueilleux et avare, et au fond du panier, nous avons l'affaire Niger, voilà, l'Africain noir. Alors lui, il est non seulement noir, ce qui est déjà un handicap, vous le concevrez, mais il est rusé et paresseux. Voilà. Cela, on le retrouve au XVIIIe siècle dans des traités de classification qui se targuent d'être scientifiques, puisqu'on veut classer les hommes comme les animaux et les plantes. Voltaire, le même Voltaire qui a pris des risques insensés pour la liberté d'expression, qui a défendu Calas et Sirvin, des protestants qui étaient harcelés, torturés pour leur religion. Eh bien, Voltaire, le même, a pris violemment à partie les juifs dans son dictionnaire philosophique, et il s'oriente dans la promotion d'un nouveau monde originel, parce qu'il n'est pas question que le monde originel ait quelque chose à voir avec les juifs, eh bien lui, il l'oriente non pas sur la mer Noire, mais vers l'Inde. Comme par hasard, l'Inde venait non pas juste d'être découverte, parce que Alexandre le Grand était allé jusque-là, mais elle était maintenant mieux connue, et surtout, elle faisait partie du premier empire colonial français. Donc, on avait tout intérêt à ce que, dans notre empire colonial, il y ait le pays qui était la matrice de toutes les langues et de tout ce qu'étaient les Européens albi, si je le mets au pluriel, puisque Voltaire, en l'occurrence, n'est pas plus malin que Leibniz, puisque ça faisait, ça rendait notre langue et notre pays à l'origine de tout ce qui est civilisation de son temps. Voilà. Cette idée de l'Inde originelle sera extrêmement féconde et populaire en France, mais surtout en Allemagne. Et parmi ses défenseurs, elle a Kant en personne. Voilà. Simplement, vous aurez compris, in fine, le lien puissant, peut-être inattendu, en tout cas aux antipodes d'une approche scientifique, entre la question des langues et les nouveaux modes de pensée, les idéologies et les intérêts sociopolitiques. Voilà, rien de neuf sous le soleil. Je vous ai distribué 3 photocopies. Nous les aborderons mieux la semaine prochaine, mais je voudrais juste que vous regardiez celle de la page 3. J'ai photocopié 2 cartes sur toutes celles qui étaient proposées par Jean-Paul Demoule, simplement pour que vous vous rendiez compte
au premier coup d'œil, comment tous ces ronds, tous ces mouvements paraissent spontanément extrêmement arbitraires. Regardez surtout la carte des foyers originels établie en 1997. Et, j'allais dire, il y en a dans tous les coins. Et je n'ai pas résisté à vous remettre la théorie de la diffusion d'après Gustave Caussina à partir du foyer arien. On va s'en tenir là. J'espère que vous n'allez pas être désespéré d'apprendre que le philosophe n'était pas parfait, mais vous saviez déjà que la perfection n'est pas de ce monde. Sauf Madame Tolamé qui m'a fait remarquer qu'il n'y avait qu'elle qui aurait pu penser à garder une bouteille pour ce genre d'avatar qui m'est arrivé. Donc rendons-lui grâce. Si vous avez encore envie d'un petit œuf, ne vous en privez pas. Vous pouvez venir en déguster. Alors oui, nous avons cours la semaine prochaine, puisque nous sommes à nouveau dans un mardi impair.